La musique.
Caravana la maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive mon bonheur, vive le soleil. Vive
les oreilles
libres.
Le jour où je lui ferai mal, je prendrai peut-être. Il sera trop tard. Les carottes sont cuites. Et les petits pois ont volé. Crie la nuit, crie la journée, crie tout le temps. C'est pas possible ça. Je veux dormir la nuit moi.
Après, on me demande, tu vas bien?
Ben non, je vais pas bien. Pas du tout. Ben non, je vais pas bien.
Oui, ben, je sais même pas comment introduire, c'est n'importe quoi ma vie. Vous êtes, et mon micro tombe. C'est génial. Vous êtes dans Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France et à Marmignac dans le Lot ou dans le reste du monde, radio-libertaire.net. Vous êtes donc à l'écoute des Oreilles Libres et aujourd'hui on reçoit Olivier Brisson. Salut Olivier.
Salut.
Est-ce que ton micro marche, je crois? Je pense. On va commencer à être celui-là. Et est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on vient d'entendre? C'était un morceau qui vient de ton album qui vient de sortir chez Nashasphone, je vais y arriver.
Oui, c'est donc un petit passage, un petit bout de la première face de ce disque qui s'appelle Horizon Capiton, qui a été édité par Hicham Chadli sur le label Nashasphone, mm-hmm. qui est un label égyptien. Voilà, et tout un disque qui a été créé sur... Enfin, que j'ai pu faire en quelques années, quoi. Enfin, une espèce d'accumulation de matériaux en lien avec ma pratique en psychiatrie, et, enfin, un petit peu comme un petit clin d'œil à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer là-bas, quoi.
Et donc, toutes ces sources, elles viennent de c'est une accumulation, comme tu as dit, c'est très diversifié. Il y a des gens qui viennent de ta famille, il y a des musiciens, il y a des amis. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez collaboratif, hein.
Alors sur le disque, en fait, voilà, on entend pas mal de choses qui font témoignage, quoi. Mm-hmm. Certaines voix ont été enregistrées directement par moi, d'autres, et d'ailleurs la plupart, sont tirées de documentaires déjà existants sur la question de la psychiatrie. Mm-hmm. Des documentaires en général qui, moi, m'ont particulièrement touché, donc c'est aussi pour ça que je les prends, je ne vais pas chercher mm-hmm. Je fais aussi gaffe à ça, quoi. Et donc voilà, c'est des documentaires sur Villévrard, sur le PS de Villévrard, des documentaires de pardon sur San Clemente, enfin des choses comme ça, quoi.
Parce que tu es psychomotricien dans tous ces endroits.
Ah du tout, non. Enfin oui, je suis psychomotricien. J'ai travaillé à Villévrard, c'est là où j'ai commencé. Ça. Donc il y a un lien assez particulier avec cet hôpital-là. Et puis maintenant, je suis dans le Nord, à Tourcoing.
À Tourcoing. Ouais. Et tu es aussi musicien. Et tu as commencé par la percussion, par la batterie, et par quoi tu as...
J'ai commencé... Ouais.
Voilà, c'est ça.
J'ai commencé par l'accordéon. Par l'accordéon. Au départ. mais je dis ça un peu en plaisantant, mais c'est pas anodin, en fait, parce que du coup, c'est... j'ai commencé petit par les musiques traditionnelles un peu bretonnantes.
Mmh. Ouais.
En Ille-et-Vilaine, et je pense que c'est quelque chose qui est resté un peu marqué, ce goût de la petite valse, ce goût des trois accords minimum de l'accordéon diatonique. C'est à peu près ce que je sais encore faire aujourd'hui. Voilà. Et puis après, la batterie, quand il s'agit de faire du rock'n'roll avec les copains, parce que l'accordéon diatonique, ça marche pas très bien. Et de fil en aiguille, avec cette même bande de collégiens, en grandissant, on commence à essayer les bricolages un peu improvisés, les musiques XP et compagnie. Et puis... Et sur le disque, au final, c'est les parties sonores sont... je joue très mal de plein de trucs. C'est ça l'idée. Donc avec aussi bien du piano que de la guitare, de la clarinette.
Et comment t'en es arrivé, du coup, à... Tu arrêtes de dire du coup, c'est un titre de langage qui est terrible. Les enfants, ne faites pas ça chez vous, ne dites pas du coup, dites autre chose. Et on en arrive comment à ce collage? Et quel est le lien, en fait, avec la pratique brute qui t'intéresse aussi, sur laquelle on va revenir ensuite, la pratique avec les handicapés, avec les marginaux, avec toutes ces personnes hors champ, hors case, hors quadrillage, je sais pas comment on appelle ça, mais on va développer tout ça. Comment on en arrive là?
Eh ben, en fait, le truc, c'est que ça devrait être extrêmement logique. Enfin, déjà pur goût personnel, quand moi je vais du côté des musiques expérimentales, on va dire ça au sens large, quoi. Mmh. Ce qui nous intéresse très tôt, c'est justement les pratiques singulières, quoi. Puis même avant, en fait. Enfin, tu vois, c'est, quand tu commences à écouter du rock alternatif alors que tes copains écoutent la radio, c'est qu'à un moment, tu trouves quand même que ce type avec une crête a une touche un peu plus particulière. Il essaye de défendre un truc un peu plus personnel. Donc voilà, enfin, c'est ce truc de viser les pratiques les plus originales, c'est quelque chose qui est... c'est un goût que j'ai depuis, enfin, qui est assez naturel et depuis longtemps. Et donc voilà, c'est moi je suis arrivé à Paris quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai commencé à organiser des concerts du côté des musiques expérimentales en montant l'association Verpituite Label.
Oui.
Et je passais mon temps aux instants. Enfin, c'était les semaines entières aux instants chalirés. Et on allait voir quand même des mecs qui, des Filmington qui faisaient des bruits de gorge. Un peu plus tard, Junko qui, pendant 20 minutes, crie des suraigus. Je découvre, comment il s'appelle, Fred Leginter, qui construit des instruments avec des morceaux de carton, des morceaux de bois trouvés sur la plage. Enfin, tout un ensemble de trucs qui me passionnent complètement. En parallèle de ça, je bosse à l'hôpital, au départ avec des adultes qu'on appelle des patients chroniques. Patient déficitaire, donc avec quand même une vie institutionnelle déjà bien bien marquée, quoi, genre 30 ans d'hosto, ça marque un corps. Et voilà, et donc c'est vrai que c'était, enfin, ce qui est plutôt particulier, c'est presque de prendre le truc dans le sens, c'est comment ça se fait que on n'ait pas fait ces liens, enfin j'ai pas pu faire moi ces liens là plus tôt. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps? Et on est quelques-uns à avoir comme ça un pied en psychiatrie, ouais. Et un pied dans la musique.
Vivien Clésigny, qui est un peu connu aussi, écoute la merde.
Ouais. Vivien, pour le coup, lui, il n'a pas attendu des masses, quoi.
Voilà.
Lui, il est arrivé en tant que... Enfin, il a commencé dès qu'il est arrivé sur son poste à Bourg-la-Reine, à l'époque, quoi. Juste après son école d'infirmier. Et tout de suite, il s'est autorisé à proposer quelque chose de musical dans les services. Moi, j'ai mis du temps parce que... encore, tu sais, cette espèce de posture soignante de « oui, mais si tu fais de la musique avec les patients, est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour eux ?» Et qui est un total faux problème, en fait.
Et comment tu l'as résolu, ce faux problème?
Alors, en me rendant compte que si je le faisais effectivement pour moi, ça me permettait d'arriver avec un minimum de désir et de plaisir, et que c'est ça qui se partage. Okay, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est qu'arrive un moment où on n'est pas... on n'est pas une casquette, quoi. On n'est pas un psychomotricien, un éduc ou un machin qui vient avec son rôle propre et sa fiche de poste, quoi. On vient surtout, en tant qu'humain, rencontrer un humain. Et je pense que si on y va du côté de ce qui nous plaît, on a peut-être une petite chance de... que quelque chose émerge du côté de la rencontre, quoi.
Super. On va écouter un autre morceau de ton album. Ça s'appelle « La lutte des classifications ». C'est un peu comme ça, c'est aussi du montage.
Alors ça, la lutte des classifications, le petit jeu de mots un peu de base, mais la classification, c'est quoi? C'est les classifications actuelles des maladies mentales. Et ça, c'est, en fait, j'avais fait un appel à la contribution aux copains de choisir dans la CIMDIS, qui est le document officiel en France de classification des maladies. De choisir dans donc de les maladies, donc tout type de pathologie possible à classifier. Et donc, dans le champ des pathologies mentales, enfin de santé mentale, il y a donc comme ça un certain nombre de codes, F81.3, F82.4, avec la classification des pathologies. Et voilà, aujourd'hui, on est dans un système psychiatrique où, quand on reçoit un patient, il faut, enfin, un sujet qui vient avec une demande en tout cas, il faut, dès le premier rendez-vous, lui foutre cette étiquette de classification, parce que c'est comme ça qu'on rentre nos actes. Il faut poser un diagnostic, rentrer les actes, et comme ça, ça quantifie notre activité, et on la quantifie par les actes et on la qualifie par les diagnostics, quoi. Donc en fait, c'est cette histoire d'étiquette. J'ai absolument rien contre le travail clinique, au contraire, et de préciser, enfin, d'essayer d'arriver un petit peu à penser les rencontres avec un minimum de clinique différentielle quand tu croises quelqu'un, pour pas faire d'impair, quoi. Mais cette espèce de rapport à l'étiquette, moi, me fait quand même pas mal flipper, et je trouve que c'est excessivement réducteur, et ça montre bien aujourd'hui, enfin, le risque étant que on aille à la rencontre d'un diagnostic et pas d'une personne qui, en l'occurrence, aussi a ça comme type de particularité. Et donc j'ai demandé à un certain nombre de gens de me lire, d'en choisir une, de me la lire. Et moi j'ai récupéré ça, j'en ai fait un montage et puis derrière j'ai fait tout l'habillage sonore. Voilà.
Super. Bah, on va écouter ça tout de suite.
F20.1 Schizophrénie hébéphrénique.
F23.0 Trouble psychotique aigu.
F25.0
Schizo-affectif
schizophrénie
paranoïaque.
F21.
F68.0
Schizophrénie.
Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
F73,
retard mental profond.
F94.0, mutisme électif.
Dis-moi.
C'est parti. Vous êtes sur Radio Libertaire, dans les oreilles libres. On est avec Olivier Brisson, dont on vient d'entendre un extrait de ton album. Je ne sais pas si ma phrase était très française. Mais c'était la lutte des classifications. Comme tu disais, donc, c'était à partir de lecture, de, si bien compris, redis-moi, le M2SM
La CIM10, qui est l'équivalent en France du DSM-5 aujourd'hui, qui est international. La France s'appuie encore sur la CIM10, qui, au final, est presque moins pire que le DSM-5, c'est dire.
Et tu peux développer un peu ce que c'est, le DSM-5?
Le DSM-5, c'est pareil, c'est le manuel diagnostique aujourd'hui des pathologies santé mentale. Donc on en est au numéro 5 actuellement. Le 4 était déjà assez terrifiant sur la façon comme ça d'organiser les problématiques de santé mentale. En faisant complètement fi de la question de la clinique.
Ouais.
C'est-à-dire que cette lecture un petit peu du côté de la structure, quoi. De la structure à sa fin, tu vois, psychose, névrose, et ainsi de suite, et des autismes, tout ça, enfin, une certaine organisation de la lecture des symptômes par la question de la structure psychopathologique. Aujourd'hui, on est vraiment que sur une lecture des symptômes purs et surtout de leur traitement par les médicaments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des classifications en fonction, quand même, enfin en lien avec la question des traitements proposés. Parce qu'on parlait de ça pendant le morceau, mais c'est l'exemple de l'hyperactivité qui était jusque-là un symptôme qu'on retrouvait dans plusieurs tableaux cliniques qui devient une pathologie en tant que telle depuis la création comme ça du médicament qui l'apaise.
Donc le médicament crée la maladie.
Tout à fait.
C'est assez flippant.
C'est.
Horizon Capiton, il y avait des notes de Anne-La Courtis que j'avais lues qui parlaient vraiment que tu disais que tu étais sur les frontières entre l'expérimental et le travail psychiatrique. Donc pour toi, finalement, ça s'est retrouvé comme une évidence, si j'ai bien compris. Mais c'est vrai qu'il y a. J'avais découvert ton travail au départ dans la série d'articles que tu avais fait pour Revue et Corriger sur la pratique brute. Le premier article, tu te basais un petit peu sur la classification de Dubuffet, de l'art brut. C'est un truc qui est un peu casse-gueule, le terme art brut. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve déjà que Dubuffet, c'est assez daté, en fait. Je trouve, parce que maintenant, l'art brut, on peut le trouver partout, n'importe quand, n'importe comment. Les bouquins sur l'art brut, tu les trouves à Fnac avec les autres. Les expos d'art brut, tu le trouves au Musée d'art moderne ou à Pompidou sans problème. Robillard, tu peux le trouver à Maison Rouge. C'est toi maintenant cette idée limite? Est-ce qu'il y a une limite? Et est-ce qu'en fait on s'en fout ou pas? Enfin, comment tu vois le truc?
Bah, moi je trouve ça plutôt super bien en fait que ça évolue comme ça. Que justement ça évolue vers un truc qui soit beaucoup moins stable et beaucoup plus flou au niveau de ses limites. Bon, alors sur la question de l'art brut, justement, moi quand. J'avais lancé cette série d'articles qui, du coup, était un peu un point de départ pour plein de trucs après, nous aussi, de monter une collection, d'organiser des journées avec Sonic Protest, avec toute la petite équipe de copains dont on parlera un petit peu après. Quoi, mais, justement, assez vite, moi, je fais le choix comme ça de parler des pratiques brutes de la musique et pas de musique brute.
Oui.
Pour justement pas tomber sur une espèce de truc complètement collé.
C'est ça.
Donc, parler des pratiques brutes de la musique, c'est à la fois faire complètement un lien, effectivement, un clin d'œil à la question de l'art brut, mais en parlant bien du fait que nous, ce qui compte, c'est la pratique.
C'est pas l'objet fini.
C'est pas l'objet fini qui se présente sous forme d'art, quoi. Enfin, tu vois, justement. Le problème de l'art brut, c'est quand même ça. Ce qui fait problème avec l'art brut, pour moi, c'est pas du tout la posture de Dubuffet. Dubuffet, il fait ça en 47. Il a commencé avant, il fait suite aussi. Et tout en étant complètement conscient aux collections que des médecins, comme Prinzhorn, comme d'autres, tout ça, avaient déjà, comment dire, construites, enfin, les collections récupérées et des collections montrées, avec des expositions déjà. Bon, c'était l'art psychopathologique, mais quoi qu'il en soit, lui, il arrive avec une posture effectivement un peu radicale, un peu. Et puis sur ce truc de l'art brut comme totalement indemne de toute culture,
oui, c'est
tout ça. Bon, bien sûr que c'est complètement faux. C'est fondamentalement faux. Mais c'est un acte politique à un moment, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Et pourquoi pas? Enfin, oui. Il fallait ça aussi à un moment pour. Il fallait un truc un peu radical, un peu franc pour qu'on puisse un petit peu regarder ça autrement. C'est aussi la force de cette posture-là qui fait qu'on en a parlé autant et que ça a eu autant de que ça a fait autant de bruit. Je pense que déjà à l'époque, il en a agacé plus d'un.
Oui.
Là, je suis tombé sur une lettre qu'il écrit en 47. Ou 48, je ne sais plus, à Jean Houry,
oui.
Qui était responsable, enfin qui était à l'époque encore sur l'hôpital de Saint-Alban, et où il aimerait avoir des œuvres de Forestier. Et il explique que, bon voilà, actuellement il n'est pas du tout en bon terme avec un certain nombre d'acteurs du surréalisme sur Paris, enfin que c'est compliqué, que, bon. Donc bien sûr qu'il y a quelque chose qui est un peu du leurre dans cette idée comme ça d'indemnité de toute culture. Au contraire, justement, c'est là où pour nous on parle de pratique brute et pas de musique brute. C'est là où on aimerait avoir un petit peu ce petit pas de côté, c'est que c'est justement dans la façon que les personnes avec lesquelles on peut bosser ressortent quelque chose de la culture ambiante que ça devient intéressant. Justement, c'est une espèce de rapport, le rapport du traitement de
Le processus
de la rencontre avec la culture qui est intéressant, bien plus. Si tu prends l'exemple des Harry's par exemple, qui est ce groupe magique qui est accompagné par Julien Bancillon et Franck Dekengo, qui sont des jeunes de l'hôpital du jour d'Antony, que les auditeurs de Radio Liberté reconnaissent parce que ils font leur émission un mercredi sur deux ici. Radio Tisto, le mercredi à 14h, je crois. 14h30, je ne sais plus. Quand tu les vois sur scène, donc en improvisation pure, ou même pendant leur répétition, ce qui est marquant d'emblée, c'est justement la façon dont ils sont complètement emprunts de la culture ambiante, mais sans aucune hiérarchie là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont capables de te... je pense à David, qui est capable de te faire... de commencer sur un chant religieux qu'il a pu entendre à la synagogue et le transformer en du... Enfin, noyer ça dans du Michael Jackson pour finir par faire des borigmes parce que ça lui rappelle la rencontre avec Phil Minton, quoi. Tout ça sur le même morceau. Enfin, il n'y a pas du tout de hiérarchie esthétique, et c'est là où, de fait, pour nous, ça devient absolument passionnant que ces pratiques-là soient aussi un petit peu présentées. C'est que nous qui venons quand même vraiment de la musique improvisée, enfin, certains d'entre nous en tout cas, on a quand même cette pratique-là au départ, quoi, de faire de l'improvisation, d'être très attiré par cette scène-là, et puis jusqu'au jour où en fait on se rend compte que dans cette scène de la musique improvisée, l'improvisation elle est quand même tout à fait relative. C'est que ça fait école, quoi. Et d'ailleurs il y a des courants dans la scène, dans les scènes improvisées, les courants ultra minimalistes, les courants purement
non idiomatique, le enfin, voilà, Steve Nufrin,
le AI, mais pourquoi pas, on voit bien que la notion d'improvisation là-dedans elle est très bornée, quoi. C'est t'improvises dans un champ tout à fait spécifique.
Au bout d'un moment, ça devient mimétique.
Bien sûr, c'est juste que t'es sur un autre vocabulaire que le vocabulaire de la partition et de.
Ou de la chanson rock.
Mais il y en a un quand même. Et donc, la subversion de tous ces codes-là, quand tu travailles avec des personnes en situation comme ça, d'isolement, de handicap et autres, il y a une spontanéité qui est extrêmement vivifiante, quoi. Et tout à fait naturelle. Et donc, c'est toute l'idée de mettre un peu en lumière ces pratiques-là, c'est juste de... C'est aussi pour qu'il y ait cette histoire d'aller-retour, quoi. Qu'il y ait quelque chose qui puisse soutenir les personnes qu'on rencontre dans quelque chose d'un peu plus sérieux que le simple atelier à 14 heures de percussion, ouais. À l'hôpital ou à l'IME ou à machin. Essayer qu'il y ait quelque chose comme ça qui soutienne du côté des personnes en tant que telles. Mmh. Et inversement aussi, qu'il y ait du côté des scènes expérimentales larges, un petit coup de pied dans la fourmilière, quoi. Enfin, ça va dans les deux sens. Je pense que c'est bénéfique à tout le monde, quoi.
Ça a bien marché. Du coup, vous avez fait ce truc au Sonic Protest, les rencontres autour de la pratique brute. C'était la deuxième édition, là, cet été. Il y a une troisième prévue ?
C'est en mars.
C'est en mars.
C'est à chaque fois au moment du festival Sonic Protest. Donc, on a commencé il y a deux ans.
Ouais.
On a fait une deuxième édition l'an dernier, toujours au Centre Barbara Fleury, Goutte d'Or. Et donc là, on est en train de commencer à préparer la troisième édition pour le prochain Sonic Protest. Et là, cette fois-ci, ça aura lieu sous le chapiteau des Turbulents, qui est un ESAT culturel de région parisienne.
Carrément dans un ESAT.
Ouais.
Ce sera plus...
Mais en fait, c'est un chapiteau culturel. Hein, parce c'est là où il y a des spectacles. Les Turbulents sont intervenus régulièrement sur les journées de pratique brute. Et... c'était il y a deux ans d'ailleurs, quand Anne-Lin Courtis, Alan était venu, il avait fait justement une restitution d'atelier avec les Turbulents. Et donc là, pour le coup, cette année, ils nous accueillent sous leur chapiteau. Donc on fera les journées sous chapiteau. Voilà, super occasion. Et alors, petit clin d'œil par rapport donc au label qu'on a créé. On va enchaîner sur Massou un petit peu après, mais donc on a cette collection qui s'appelle Label Brut,
voilà,
qui est une collection qu'on a montée au tout début avec Julien Bancillon, donc qui est aussi musicien, Wal Nicklas, tout ça, et accompagnateur des Harry's et psychologue. Donc avec lui, avec Mathieu Morin, qui lui a une collection d'art brut personnel à Lille, qui est aussi batteur dans des groupes de rock and roll et compagnie. Et donc à nous trois, on va voir Jean-Marie Massou. Suite à ces rencontres, on a sorti les premiers disques de Massou, qui donc maintenant ont permis la naissance d'une collection. Et dans les prochaines choses à sortir sur 2019, il y aura justement un disque des Turbulents en collaboration. Enfin, c'est une collaboration entre Fantasio et les Turbulents, qui est qui se tient sur plusieurs années de rencontres, quoi.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'on peut introduire maintenant le personnage Jean-Marie Massou ?
Introduire Jean-Marie Massou ?
C'est...
Écoute, Jean-Marie Massou, pour expliquer rapidement...
On pourrait y revenir ensuite, hein, mais avant d'écouter, c'est bien d'avoir un petit peu...
C'est un homme qui est né en 1950, qui vit dans le Lot, dans une ancienne maison au milieu de la forêt, et qui a passé sa vie à creuser des gouffres et des grottes et des galeries souterraines. Tout un ensemble comme ça de cavités qu'il appelle le temple, avec pour lui la certitude que ça a une fonction pour l'avenir, d'accueil aussi des extraterrestres et autres, et qui tient un discours sur ce que l'humanité
va devenir,
ce qu'elle a à faire, ce qu'il faut. Et donc c'est un homme qui, depuis tout ce temps-là aussi, en parallèle de ses trous, enregistre des cassettes. Et il avait commencé sur bande dans les années 70, et donc il enregistre des cassettes depuis des années où il chante, où il enregistre ses messages, où il raconte sa vie, où il enregistre ses rêves, où il fait des sketchs aussi, parce que c'est un homme qui est très seul, donc du coup ce rapport à la cassette, c'est un peu une altérité possible au quotidien, et ce qu'il fait sur cassette est absolument passionnant. Et voilà, on peut commencer par en écouter un petit peu.
On va écouter ça.
Bien crevé.
On y va. C'est pas grave, c'est le direct. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM. On est avec Olivier Brisson et c'est Jean-Marie Massou qu'on vient d'écouter. On va peut-être revenir un peu à la genèse des deux albums que vous avez déjà sortis sur Label Brut. Avant ça, il y avait ce film qui s'appelle Le Plein Pays, qui est sorti en 2009. J'ai oublié le nom du réalisateur.
Antoine Boutet.
Antoine Boutet.
En fait, pour nous, tout commence avec ce film-là.
Mm-hmm. C'est un film où on suit vraiment Jean-Marie Massou, son quotidien.
C'est un documentaire, tu vois, dans la série Documentaire Brut, il est assez parlant. C'est 50 minutes qui retracent deux ou trois ans de rencontres avec Massou. Donc on le voit à différentes périodes, différentes saisons. Donc, bah, dans son univers, c'est-à-dire dans sa forêt, dans ses grottes, dans sa petite maison, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. On voit juste ce type, cette espèce d'Hercule, se battre contre des roches de plusieurs tonnes pour essayer de les déplacer. Voilà, qui a un rapport au langage très singulier, qui est dans un isolement particulièrement aride. Et donc ce documentaire-là, nous a sidérés. Julien et Mathieu, donc les deux, Julien Bancillon et Mathieu Morin, l'avaient vu tous les deux, chacun de leur côté. Julien me l'a passé. On a rencontré Mathieu par le biais de l'équipe de Brut Pop pour parler de prochains projets à venir. Et puis au fur et à mesure, on a parlé de ce film ensemble, tous les trois. Quand même, dedans, il y a plein de cassettes qui sont comme... Enfin, on entend des enregistrements de cassettes. On le voit, lui... En fait, il est constamment avec son magnéto. Mmh. Et d'ailleurs, dans le film, la seule bande originale n'est faite que des cassettes que Massou met sur les plans. Mais très concrètement, lui, son idée, c'est tout bête, c'est qu'il expliquait à Antoine Boutet, oui, mais attends, si on fait un film, très bien, mais quand on fait, enfin, dans un film, il y a de la musique.
Ah oui.
Donc, il prenait son magnéto, il choisissait les musiques qu'il voulait pour sonoriser comme ça les plans qui allaient être tournés en direct, quoi. Donc, c'est absolument magnifique, quoi. Donc voilà, et nous, cette place du magnéto nous avait un peu intrigués. Et moi, c'était au moment où je commençais où j'avais en tête cette série d'articles. Pour revue et corriger. Je suis passé dans le Lot, et à un moment dans le film, en fait, il explique où il habite. Il explique l'équivalent de la complainte qu'on vient d'entendre, qui est la complainte à Marie-Ange, qui est la version qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est tirée d'une cassette de la fin des années 70, 77 ou 78. Donc, depuis cette époque-là, il travaille cette complainte, il fait évoluer les paroles en permanence. Mmh. Mais par contre, c'est le même air et c'est la même adresse. C'est cette adresse à Marie-Ange, qui est une petite fille qu'il connaissait, enfin qu'il a connue quand il avait 8 ans, et auquel il adresse cette complainte régulièrement. Et donc, il donne dedans son adresse pour qu'elle puisse le retrouver. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai suivi les indications et je suis allé le voir pour savoir un petit peu s'il était d'accord qu'on parle un petit peu de son rapport aux cassettes. Mais au départ, moi, j'y allais pour l'interviewer, quoi.
Ouais, ouais.
Enfin, juste pour faire... L'interview était compliquée parce que quand tu lui poses une question, il répond toujours à côté de la question. Mais par contre, il m'a fait écouter plein de cassettes. Il m'a montré qu'il en avait des tonnes. Et alors là, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes OK pour que... Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un travail d'édition de tout ça, que ça reste pas comme ça chez vous? Et donc, il était partant. Et donc, on est retourné avec Mathieu et Julien et des micros et pour faire à la fois des prises de son en direct, des numérisations de cassettes, ainsi de suite.
Mais il montre ça facilement, sa musique.
Ouais.
C'est-à-dire à Antoine Boutet avant, avant Antoine Boutet, il n'y avait pas de précédent, il n'y avait personne qui s'intéressait spécialement à lui en tant que...
Alors, il y avait... En fait, si, ça fait des années que des gens s'intéressent à lui, mais pas par le biais de... Enfin, pas tellement du côté de la cassette ou des musiques. Vraiment beaucoup plus sur ce travail de grottes, des cavités qu'il pouvait créer, des galeries souterraines, tout ça. Il y a eu un article en 1984 dans le Nouvel Obs, par Walter Levino, qui était journaliste à l'Obs et qui avait une maison dans le même bled, et qui allait régulièrement le voir, et qui allait chez lui, chez Massou, avec Jean Carmet.
D'accord. Enfin,
tu vois, c'est Massou, des fois, te raconte des trucs. Enfin, en fait, non, il a toujours eu de la visite, il a toujours intéressé des gens. Et c'est ça que moi, je trouve super avec lui, c'est qu'en fait, il arrive à sa façon à avoir toujours, par période, quelqu'un qui vient et qui fait un bout de chemin avec lui, soutient son travail, l'encourage, machin. Enfin, il y a eu des articles dans des revues de Spéléo.
Ah.
Il y a eu des articles... Dans un journal local, et lui il garde tout ça, quoi. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà, nous on est actuellement avec lui et on soutient ce travail sonore. Et il me disait la dernière fois au téléphone que il est content, il y a une équipe qui est passée le voir pour faire un film avec lui. Bon, écoute, super, quoi. Enfin, tu vois, il arrive comme ça. Alors on espère qu'il voudra bien quand même continuer encore un peu avec nous. On y va cet après. Enfin, on part ce soir le voir là pour quelques jours. parce que il y a encore plein de projets avec lui.
Il y a des tonnes de trucs qui sont pas encore sortis, qui que vous avez envie de sortir. Et vous avez un projet de troisième, c'est ça, de troisième album?
Alors il y a un prochain projet, ouais, qui s'appellera Le Repenti des Prostituées. C'est ce que lui appelle lui-même, c'est son roman, c'est le roman de Massou, où il a vraiment créé une vraie fiction, quoi.
Ouais.
Qui commence par des jeunes prostituées à Noël, sous la neige, seules et abandonnées. Et il vient les sauver, il va les emmener jusqu'à la planète Sodorum, à plusieurs années-lumière de la Terre, une planète parfaite où la procréation est abolie. Parce que voilà. Toute son idée, c'est ça, quand même. Mmh. En fait, le nœud de son travail, de ses messages, c'est de... Il faut que l'humanité comprenne qu'elle va à sa perte, qu'on est beaucoup trop nombreux, mmh. et que la meilleure solution, c'est de commencer déjà par arrêter toute maternité. Et derrière son idée d'arrêter la maternité, c'est aussi mettre à distance toute la question de la sexualité, mmh. qui est quand même très clairement problématique pour lui. Mais bon, voilà, et donc il construit tout ce truc. Pour lui, la question de la maternité est ce qui fait... C'est ce qui mènera l'humanité à sa perte, très clairement.
Et la planète Sodorum, du coup, c'est la... Il pense qu'il vient de là, ou alors qu'il connaît des gens qui viennent de là?
Non.
C'est quoi?
Bon, il est pas... Il a conscience que c'est une... Que mm-hmm. c'est une...
C'est plus une fantaisie, un...
Non, il... Que c'est un monde... Que c'est un monde imaginaire et désiré.
Oui, d'accord.
On va dire. Mm-hmm. Mais il est absolument pas sur un discours
c'est pas non plus
complète, enfin tu vois,
c'est pas non plus structuré,
il nous dit pas il faut trouver cette planète là elle existe, et point, au contraire. Il est vraiment il est assez là par exemple on va travailler avec lui autour de la question de... On va faire un clip, on va voir ce qu'on peut faire. Mais régulièrement, il nous dit qu'il veut faire des films avec des films avec les extraterrestres et tout ça, parce que ça il en a très envie. Il a ses scénarios en tête, quoi. Mmh. Et il nous regarde comme si on était des gros neuneux. On dit, mais oui, on va faire ça sur fond vert. Je sais très bien, on fera des incrustations sur ordinateur ensuite. Enfin, il est complètement au jus des techniques et tout ça, tout en étant parfois un peu encore dans un autre temps, parce qu'en même temps, il nous dit, mais voilà, il faut contacter l'ORTF.
Ah oui.
Et, enfin. Voilà.
Alors, on va remettre de la musique. Est-ce que tu veux remettre un peu de Jean-Marie Massou encore?
Bah, un peu. Donc ça, c'était les deux morceaux qu'on... Enfin, les deux petits bouts là, qu'on a entendus viennent du deuxième disque qu'on a sorti. Donc, ce deuxième disque qui s'appelle La Citerne de Coulanges est intégralement fait... toute la matière qu'on entend vient d'une seule cassette.
De ces années-là, 77-78.
Donc, date de la fin... Ouais. Et donc là, c'est dans son parcours à lui. Donc il a grandi en région parisienne et il revient jeune adulte dans le Lot, qui est le pays natal de sa mère et de toute sa famille. Et donc sur le chemin entre les deux, il y a quelques temps à Coulanges-la-Vineuse, et où là, il avait accès à une citerne géante. Et donc il enregistre tout dans sa citerne géante avec un petit magnétophone manuel, quoi. Et donc ça n'est que a cappella et avec des pierres qui viennent choquer les bords de la citerne. Et dans le premier vinyle qu'on avait fait, c'était un vinyle un peu plus... on a commencé par le best-of, quoi.
Oui, c'est ça. C'est un truc global avec...
Il y avait quatre faces, montages, une première face où on essayait de montrer vraiment plus les complaintes chantées au-dessus de sa petite citerne chez lui, que là on enregistrait nous, principalement. Deuxième face autour des chants qu'il peut faire avec des morceaux originaux, donc où il chante sur des cassettes. Troisième face où c'est plus la question de sa biographie, ce qu'il peut enregistrer. Et tout ça avec des montages, avec plusieurs magnétos. Il a toujours un fond sonore avec son tout par-dessus, des cuts qui font très musique concrète brute, quoi. Mmh. Et la dernière face qui est autour vraiment de Mary Poppins on a réduit sur une face de vinyle quasiment quasiment 50-60 minutes du même passage de Mary Poppins qui remet en boucle et sur lequel il rechante à chaque fois avec des variations, enfin une espèce de truc entre le sampling et la reprise qui est assez incroyable, quoi.
Et si tu veux qu'on écoute cette partie-là, cette face-là, tu l'as amenée?
Et on va mettre un tout petit bout de Mary Poppins. Ça doit être le premier morceau. c'est ça. Voilà, un petit bout de Mary Poppins, ouais.
Je vais voir.
On va peut-être pas mettre Mary Poppins. Parce que Jean-Marie Massou a un goût immodéré pour les dessins animés et toutes les histoires d'aventure.
Je parle de tout côté là, parce que c'est un vieux massin qui veut rien, qui veut rien. Je parle de tout côté, je parle de tout côté là, parce que c'est vraiment trop beau, vraiment trop beau.
Hélène, vous pouvez les faire entrer, une à la fois.
Vous pouvez entrer, mais une à la fois.
Je vous remercie.
C'est Mary Poppins, Mary Poppins.
Il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte une chose qu'on aime. Et chaque tâche peut devenir son humeur et plaisir.
Et c'était Jean-Marie Massou, un extrait du premier, ça c'est l'extrait du premier.
Alors,
non.
On a eu deux choses là. On a eu un petit bout de Mary Poppins qui est donc extrait du premier,
voilà.
Sodorum volume 1. Et là, la mama qui est tirée du volume 2, donc
voilà.
La citane
de planche. Planche.
Et tu vois, par rapport à ce qu'on vient d'entendre là sur la mama, et qui fait lien avec plein de trucs. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il il a dans ce disque-là? Il fait aussi pas mal de reprises. Il fait donc celle-là, il fait le jus légime là.
Ah oui, le tourbillon de la vie.
Voilà, ouais. L'Ave Maria, le vrai.
Ouais, ouais.
Et ce qui est rigolo, c'est que dans la cassette, en fait, il enchaîne l'Ave Maria
ouais.
classique, enfin un des Ave Maria, avec celui-là. Et là, on voit le truc de la métonymie, quoi. Il chante l'Ave Maria, paf, ça lui fait penser à la mama, parce qu'il y a, il y a ce refrain là. Et de l'Ave Maria, de la mama d'Aznavour, il ne reprend en fait qu'une phrase.
Mmh.
Il met qu'une phrase en boucle et il en fait un truc complètement entêtant de.
C'est ça.
Et ce truc comme ça de la répétition jusqu'à l'étourdissement, quoi.
Mmh.
C'est quelque chose. On parlera peut-être de Comlade tout à l'heure, mais bon, c'est chercher un peu le squelette dans le souvenir de ce qui t'a touché
ouais.
et d'essayer d'en recracher quelque chose.
C'est
quoi.
Ça.
Et ça, moi, c'est vraiment un truc qui est là pour le coup transstructurel, quoi, que tu vas trouver aussi très naturellement avec. Comme ça, des sujets pour lesquels la spontanéité est la directe. Et puis, on va retrouver ça aussi chez plein de musiciens, ou dans la pratique d'écriture, ou dans la pratique du dessin. Enfin, ce truc d'aller creuser, d'aller chercher le minimum du minimum, et d'en faire vraiment la ritournelle la plus basique, quoi.
Super. Et maintenant, on peut développer un petit peu ce qui est Verpituite et. Et aller sur le disque de Dionette que vous allez sortir, que vous avez sorti,
qui sort tout juste.
Alors, Verpituite, qu'est-ce que c'est concrètement ?
Verpituite, à l'origine, c'est une asso que j'avais créée avec le groupe de musiciens avec lesquels je jouais à Rennes en 98. L'idée, c'était qu'on n'était pas très nombreux, mais on avait plein de projets différents avec ces mêmes. Musiciens, quoi, en trio, en duo, à 4 à 5. Donc on s'était dit, on monte un collectif, on monte une association qui nous permettra de défendre tout ça un peu plus globalement. Et en fait, il s'avère que j'ai déménagé très rapidement ensuite sur Paris et que j'ai continué. Enfin, on avait commencé à organiser des concerts à Rennes à cette époque-là. Et puis ça a continué à Paris, où là, du coup, voilà, je m'en suis un peu plus. Occupé sans les copains. Et donc c'est une asso qui a organisé pas mal de concerts au Voût, enfin principalement au Voût, un peu aux Instants, un peu au Jardin Moderne à Rennes, et puis dans quelques autres squats, et qui avait commencé un petit travail d'édition de disques. Un premier qui était un solo d'un saxophoniste justement de Rennes, Régis Bunel, ensuite un duo duo électroacoustique, et on a sorti à cette époque-là un disque qui s'appelait Maison House 2-5 de Jean-Luc Guillonnet et Éric Lacassa, qui étaient des portraits de maison. Dans le disque, en gros, Éric Lacassa enregistre, lui est au micro dans des maisons, et Guillonnet fait du sax dans les pièces, un peu partout, et voilà, c'est vraiment une espèce de mise en valeur des lieux, des pièces et tout ça.
Et le résonance.
Donc, premier travail avec Guillonnet à cette époque-là.
D'accord.
Qui avait été assez passionnant. Qui faisait suite au disque de Benjamin Renard et Fabrice Seguelin, plus électroacoustique. Et en fait, après ça, le label, c'est un peu. Enfin, il y a eu une collab avec d'autres franco-japonais. Puis à ce moment-là, moi, j'ai arrêté le label. Enfin, j'ai arrêté. J'ai pas eu d'autres occasions sur le coup. Et donc, il y a eu un gros trou. L'asso a continué à organiser de temps en temps des concerts, mais pas tant que ça. Et donc, c'est autour de ce travail avec Massou que, avec les copains, on s'est dit, il faut qu'on cherche un label pour sortir ce que ce monsieur fait. Et puis, on s'est naturellement dit, mais en fait, c'est débile, quoi. Il y en a un qui est... Il y a déjà un label, il y a déjà une structure, on la garde et par contre, on fait une collection, donc Label Voûte, une collection dans le label, pour qu'on puisse spécifier clairement les productions en lien avec la question des pratiques voûtes de la musique dans le label, un petit peu séparé quand même des autres types de productions. Et donc le Guillonnet, on ne peut pas mettre Jean-Luc Guillonnet dans le champ des pratiques voûtes de la musique, même s'il a une pratique tout à fait brutale de la musique.
C'est ça. Et qu'est-ce que c'est de ce disque? C'est aussi une exploration des espaces, c'est,
Alors là, ouais, c'est totalement, pour moi, dans la continuité de ce qu'il avait fait la première fois.
Ouais.
Là, c'est un solo d'orgue,
ouais,
qui est enregistré dans le monastère d'Aranzazu, au Pays Basque. Il avait été invité, en fait, pendant 4 jours par le collectif Audiolab,
oui,
de Xavier Erquiza. Enfin, pendant quelques jours, donc, à travailler dans ce monastère-là, qui, ouais, n'avait pas accueilli d'artistes depuis des années, et qui a un lieu très, très, très particulier, très controversé dans son architecture. Donc, ah, c'est vraiment un lieu très, très particulier et très important pour ce territoire-là. Et donc, le collectif Audiolab a vraiment comme désir de faire intervenir des artistes dans ce monastère pour travailler des œuvres en lien avec le lieu, chacun y allant de son... avec sa propre pratique. Et donc Jean-Luc est allé jouer de l'orgue, un orgue qui là-bas est en très mauvais état.
Mmh.
En fait, c'est pas du tout. Enfin, il a joué sur l'orgue qui est tout à fait vieillissant et il ne travaille qu'à partir des ratages de l'orgue, quoi.
C'est ça qui est intéressant.
Et donc on l'a sorti en vinyle. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est de sortir la même improvisation,
ouais,
de 16 minutes avec face A les micros tout près de l'orgue,
ah,
et face B la même improvisation, mais enregistrée avec des micros qui étaient au fond du monastère.
Et la différence est tellement...
Et bah, la différence, elle est... Enfin, tu vois, ouais, c'est comme quand tu fais de la musique et puis tu mets une réverb dessus, quoi. Ça change, ouais, tout. Sauf que là, la réverb, elle est naturelle. Et que donc, tu vois aussi comment, dans l'espace, les sons se projettent différemment, oui, comment ce qui est dans le... Enfin, voilà. Dans les deux cas, on est sur quelque chose de l'ordre du détail, mais pas du tout les mêmes. Et c'est voilà, c'est et dans la phase B, on va entendre aussi d'autres sons qui ne sont pas que les sons de l'orgue,
oui,
les cloches qui sonnent, des gens qui passent, la rumeur du lieu, quoi.
Mm.
Et ça, la question de la rumeur pour Guillonnet, c'est quand même son travail.
C'est sûr.
Très très très.
On écoute ça alors.
Et donc voilà, oui, c'est vraiment un objet qui s'écoute un peu quand même. Bah, l'intérêt, c'est justement d'avoir les deux faces.
C'est ça.
Donc là, on ne va pas écouter les deux. Mais du coup, je vous propose qu'on mette juste un extrait de la deuxième face.
Mmh. On écoute ça, alors. Vous êtes sur Radio Libertaire et on a eu un bug. On n'arrive pas à lire les morceaux. Donc, on va continuer la discussion quand même. On a encore 20 minutes pour l'émission. Ce qu'on devait écouter, c'était le disque de Jean-Luc Guillonnet que vous allez sortir sur le Verbituit. On va y,
ouais,
arriver.
Voilà, qui vient d'arriver donc sur Verbituit, Verbituit label, donc qui va être en distrib très très prochainement sur Metamkin et qu'on aura en magasin rapidement. Mmh. Il est déjà commandable sur le Bandcamp du label, comme les autres disques de Massou. Voilà, en vinyle. Principalement, et le Sodorum volume 1 de Massou est en CD.
C'est ça. Il n'y a pas le volume 2 de Massou ?
Non.
Non. Alors, on voulait aussi parler un petit peu de ce que tu as fait avec Pascal Comelad, mais ça, c'est plus ancien. C'est un groupe qui s'appelait My Favorite Sideburns Orchestra.
Alors, ça, le My Favorite Sideburns Orchestra, qu'on appelait MFSO,
ouais,
c'est un groupe qu'on avait monté au départ avec... deux anciens copains de lycée, sur Paris aussi également, et Quentin Dubost, qui en avait fait beaucoup de musique impro à une période. L'idée était de reprendre des morceaux de Comelad en rock'n'roll. Comelad,
tout simplement,
faisant des reprises de rock'n'roll au piano-jouet, nous on se disait qu'on allait reprendre ces morceaux joués au piano-jouet en rock'n'roll, deux guitares, basse, batterie. Et, voilà. Et c'est un projet qui nous a fait... particulièrement plaisir, et voilà, c'était tout à fait ludique comme principe. Mais du coup, j'avais envoyé ça à Pascal, histoire que, voilà, de le faire aussi en toute, enfin, qu'il soit un peu au jus de ce bazar là, quoi. Et puis il avait le choix, quoi. Soit il portait plainte pour harcèlement parce que on lui proposait des choses régulièrement, ça. Soit au contraire, ça engageait des suites. Et en fait, ça a plutôt été dans ce sens-là. On s'est retrouvé donc à faire un morceau ensemble sur une compile. Et puis de fil en aiguille, on a joué ensemble. Enfin, il m'a proposé de jouer un peu avec lui. Et donc maintenant, je fais partie des différents musiciens avec lesquels il a l'habitude de jouer selon les endroits géographiques où il est, quoi. En gros, c'est Pascal, il fonctionne vachement comme ça, quoi. Il a les musiciens avec lesquels il joue quand il est à Barcelone, les musiciens quand il est du côté de Perpignan, et les musiciens quand il est plus haut, quoi.
D'accord.
Et donc avec Julien Bancillon, donc tu vois, les Harris toujours.
Ouais, ouais.
On est régulier. Enfin, maintenant, on commence à jouer assez régulièrement avec Pascal.
Il a aussi ces questionnements. Ça intéresse aussi la pratique brute, comme ça.
Ah ben, c'est un passionné. Mmh. C'est un vrai passionné d'art brut. Mais alors lui, pour le coup, passionné aussi de l'art brut historique, quoi.
Ouais.
Et donc très 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 vigilant à pas tout mélanger avec justement ce que tu disais en début d'émission de tous les arrangements qu'on essaye de faire aujourd'hui avec l'art outsider, les arts singuliers, les arts naïfs, tout ça, quoi. Et donc par exemple, tu vois, la musique brute, c'est quelque chose qui, oh là là, ça le met vite en colère. Mais oui, c'est il a une passion de lettré par rapport à ces questions-là, mais en même temps qu'une résonance tout à fait directe avec sa pratique musicale. Enfin, c'est quand même le seul type que je connaisse, moi, qui, enfin, on répète quand même, enfin, on joue ensemble maintenant depuis quelques, enfin, je joue avec lui, moi, depuis quelques temps. On n'a jamais de répète, quoi. Enfin, tu te retrouves, on te propose un concert en Allemagne ou un machin, ok, très bien, on reçoit la liste des morceaux par mail et puis on répète pendant les balances, quoi. Donc, enfin, moi, je trouve ça tout à fait chouette. Enfin, sur ce rapport, tu vois, à l'improvisation, ce rapport à tout ça, lui, on est sur un format extrêmement classique de chansonnette, quoi. Enfin, tu vois,
et des reprises, des
couplets, refrains, de reprises et tout ça. Sauf qu'on est dans une obligation de spontanéité parce qu'on travaille pas, qui est parfois, moi, je trouve beaucoup plus engageant du côté de l'improvisation que des situations de musique impro que j'ai pu vivre.
C'est la contrainte qui fait l'intérêt aussi du projet, quelque part.
Ah, bah complètement. Ouais, et puis, après, c'est. C'est un bonhomme au parcours qui me touche beaucoup. Et qui vient, dans mon propre parcours, résonner à plein d'endroits. Enfin, justement, je parlais de la question de la valse, de la question du rock'n'roll, de la question des musiques minimales, de la question de la pratique. Du soin, enfin, alors, lui, il n'est pas du tout directement là-dedans, mais c'est quelque chose qui le concerne tout à fait directement. Quand tu lis ses articles, quand tu regardes ses bouquins, tout, il avait inventé le docteur Sponge-Müller et sa collection. Il est fils de neuropsychiatre catalan, donc il y a quand même, c'est très 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 présent quand même, cette question des parcours cabossés chez lui, quoi. Enfin, son intérêt pour les parcours cabossés. Et moi, c'est extrêmement agréable de travailler avec ce bonhomme. Mais enfin, c'est aussi ça, quand on parle de pratique brute de la musique, c'est qu'on, à la fois, on a envie de mettre en avant un certain nombre de projets, de personnes qui ne seraient pas d'eux-mêmes en capacité ou en volonté d'aller présenter leur production, quoi. Enfin, tu vois, que ce soit parce qu'ils sont en institution ou parce que c'est pas naturel chez eux que d'aller vers un public. Et à la fois, on a vraiment envie justement que ça se croise, quoi. C'est-à-dire que la façon qu'a Pascal de travailler, d'être... Nous parle tout à fait directement. On organise là prochainement un concert à Lille, qui est une espèce de cabaret foutrac qui va avoir lieu le 7 novembre, là, où on fait venir Porest, qui est. C'est Marc Gerguis qui va jouer aussi, avec le projet Porest qui va jouer là-haut, sur les 3 jours aux instants chavirés autour du label Sublime Frequencies. Ouais. Enfin, je crois que c'est au théâtre Berthelot, d'ailleurs, ou aux instants.
Non, je crois que c'est aux instants.
En tout cas, le week-end du 9, 10, 11 novembre, là, Donc qui lui, enfin pareil, travaille que à partir du détournement des discours de radio, de ouais. bruitage, enfin c'est qui est sur une espèce d'ironie féroce, toujours très politisée, mais avec enfin un humour qui moi me parle directement. Mais on invite aussi Coste
ah, oui.
ce soir-là. On invite Damien Schutz et Helg
oui.
pour leur perf à deux là. Donc on est pas, enfin voilà, c'est pas du tout brut dans le sens où ils savent tous les trois très très bien ce qu'ils font, ouais. mais on est quand même sur un rapport à la création du côté du bricolage, du côté de l'invention d'une modalité de proposition tout à fait singulière qui nous semble complètement en lien quoi. Alors c'est une soirée qu'on organise sous le label Verpituite, pas sous le label voilà. Brut. mais pour moi c'est des encore une fois c'est les croisements qui comptent quoi. Et en décembre, on va faire jouer les Shoulders, où là, pour le coup, deux MC trisomiques,
oui.
avec les musiciens de la S. Il y aura aussi Harry Mery. Enfin, on est sur... Il y a des moments où je pense que les Shoulders sont plus pros que presque pour Led Cost, quoi. Enfin, tu vois, donc... les Shoulders jouent aux Eurokiennes, aux Transmusicales. Pas Coste.
Oui, c'est ça.
Qui est le plus brut dans l'affaire c'est ou ça. Pas. Enfin, tu vois, c'est là où c'est des comment dire, des nominations qui nous servent, nous, à essayer à réfléchir, quoi. Ça nous permet de nous mettre au travail et d'essayer un petit peu de faire se croiser des projets, des gens et des expériences. Mais vraiment, on a comme volonté de pas cantonner notre bazar à la question du handicap, quoi.
Oh.
L'idée étant justement oui. d'essayer de montrer à quel point, d'essayer de montrer ce qui fait commun dans ces pratiques-là, plutôt pas justement de ce qui fait différence.
Voilà, quoi. C'est ça.
Et que pour reprendre ce que je disais au tout début, je pense que moi, je travaille avec une petite fille qui s'appelle Camille,
oui.
et qui jusqu'à présent, je travaille, c'est-à-dire que je la vois au travail, mais en fait au travail on ne fait quasiment que de la musique. C'est une petite fille qui se présentait comme ça au monde et aux gens qui l'entouraient que en hurlant. Et de fil en aiguille, avec un micro, une réverb, un sampler et tout, on a commencé un peu à en jouer, à la pitcher, à la mettre en boucle, moi-même à gueuler dedans, à faire des rythmiques et tout. Et c'est devenu un jeu. Et donc, on a joué avec sa voix. Quoi. Et aujourd'hui, elle fait plein de trucs, on fait des montages. On passe vraiment des moments de... On joue de la musique. Quoi.
Oui, oui.
Je ne suis pas dans un rapport thérapeutique quand on est dans ces moments-là. On joue vraiment de la musique. Et elle, on joue réellement. Et elle en présente quelque chose. Enfin, c'est vraiment... Il y a un plaisir à la réécoute, il y a un truc... Bon, on est au début de quelque chose, on verra peut-être que dans 10 ans, on fera des tournées. Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand elle crie, elle peut... Parce qu'elle continue à le faire des fois, mais justement, ouais. avec son micro et avec son machin, c'est pas très très... Pour moi, elle est dans la même intensité de perceptive et sensorielle que Junko quand elle hurle. Enfin, on est sur un truc de tout à fait corporel, quoi. Et de la même manière que quand... c'est là où, pour moi, il y a vraiment des pratiques communes. Tout à l'heure, on parlait de la répétition chez Massou,
oui.
mais ce truc de travailler la boucle, jusqu'à l'entêtement, ouais. et tout ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver complètement, qui viennent toucher aussi bien les musiciens... des scènes qu'on a l'habitude de côtoyer que les jeunes ou les moins jeunes dans ces institutions avec lesquelles on travaille. Et c'est pour moi comment justement c'est là-dessus qu'on essaye nous de travailler un petit peu avec les rencontres de pratique brute de la musique, c'est justement d'essayer de mettre en évidence, d'essayer un petit peu de repérer qu'est-ce qui opère dans toutes ces situations-là, qu'est-ce qui fait point commun, quoi, qu'est-ce qui... Et ça devient vraiment passionnant d'essayer d'arriver à repérer un petit peu, parce que ça vient vraiment travailler du côté de... Enfin, moi, je suis assez persuadé qu'il y a quelque chose d'un... Comment dire, quelque chose qui vient accrocher le sensoriel pur, le plaisir du... Mmh. Fin, et qu'on va retrouver dans l'arch noise, qu'on va retrouver quelque chose qui vient mobiliser le corps en deçà du langage, quoi. Et que ce plaisir qu'on peut avoir, nous, à aller s'en prendre, enfin, pour être poli, pour aller s'en prendre plein la gueule quand on va voir du Karkowski ou du machin, et ben, c'est le même que ce que certains jeunes peuvent rechercher dans le balancement, dans le... Enfin, tu vois, c'est par exemple ce truc que nous, on va choper avec le Arch Noise quand on propose ce que Vivian Grisini fait, par exemple, faisait avec les patients à Bourg-la-Reine, ça permettait quand même une diminution énorme des automutilations.
Oui, d'accord.
Parce que justement, l'effet pouvait être le même, l'effet dans le corps. C'est un truc qui vient mobiliser le corps dans son plus pur sensoriel, quoi, sans avoir besoin quand même de lui faire mal.
C'est ça.
Enfin, et c'est ces endroits de limite, quoi. Ça fait du bien là où ça fait mal. Et on peut bien nous le ressentir, ça. Parce que quand même, quand tu vas écouter un concert de Arch Noise, de vomir ou tout ça, on peut quand même pas dire que on y prend du plaisir à un endroit quand même. C'est le au-delà du principe de plaisir, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est quand même. Et ben ici, voilà. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir relire ce qui se passe pour les patients à l'aune de ce que nous on peut vivre de ce côté-là et inversement. Et dans les manifestations comme ça de rapport à l'éprouver.
Est-ce que les institutions au-dessus, elles sont bienveillantes encore par rapport à ça? Ou est-ce que ça va toucher une limite à un moment, tu penses?
On est mal.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que pour le moment, en fait, ça dépend des institutions. Ça dépend vraiment des institutions. Et aujourd'hui, ça se joue aux personnes, je pense. Ça se joue aux personnes. Et par exemple, du côté de l'institution publique, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que les politiques publiques sont de moins en moins à accompagner des projets justement singuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même sur un truc tout à fait normatif et avec une formation aujourd'hui des cadres et des dirigeants qui est de plus en plus du côté quand même d'une économie de soins.
C'est ça.
Et on peut tomber sur des gens tout à fait... moi, je travaille dans un cadre où, effectivement, on me laisse faire à peu près ce que je veux. C'est tout à fait pratique. Mais... on voit bien qu'il n'y a pas une volonté générale d'aller du côté du soutien à la différence. On est quand même plutôt du côté d'une
normativité.
Si on revient du côté de la question de l'autisme, on voit bien qu'actuellement le truc c'est l'inclusion, quoi. Donc c'est l'inclusion pour les jeunes à l'école et c'est l'inclusion dans le travail pour les adultes, quoi. C'est super, mais en soi super, c'est-à-dire pour qu'il y ait une chose partagée, très bien. La question c'est, est-ce que c'est au prix du plus singulier de chacun? Et si le but c'est de gommer tout ce qui fait une particularité pour pouvoir rentrer dans le moule, ça va pas donner que du bon, quoi.
C'est toujours la question de la différence, des besoins spécifiques aussi.
L'école publique aujourd'hui vise quand même pas beaucoup l'ouverture à chacun, mais plutôt le fait. Enfin, c'est le pour tous, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est quand même vraiment le prêt à porter. C'est pas le sur mesure, quoi.
C'est ça.
Et c'est là où c'est dangereux, c'est que. Ouais. Alors, il reste encore des endroits, effectivement, où on peut encore un peu caché pratiquer en résistance, mais.
C'est ça.
Vaut mieux quand même. Je dis ça, et en même temps, je pense que d'amener la question de la culture, d'amener la question de la pratique artistique et tout ça, permet justement, et c'est aussi pour ça nous, qu'on est sur ce terrain-là, parce qu'on trouve ça pratique, c'est que ça nous permet de parler de quelque chose qui nous semble tout à fait éthique, qui est la question du singulier. Enfin, je le dis tout le temps, ce mot-là, c'est un peu chiant, et puis il est un peu à la mode quand même, mais tant pis. Enfin, en tout cas, d'arriver justement à montrer qu'est-ce qui fait que celui-ci vient être touchant à un moment, c'est que justement il est au plus près de ce qui lui est propre à lui, quoi. Et c'est ce qui fait que ça devient intéressant. Et ça, donc voilà, par le biais de la création, par le biais de tous les trucs musicaux, par le biais de cet angle-là, on arrive à défendre ça. Là où aujourd'hui, par le biais du soin, c'est plus possible du tout. C'est qu'aujourd'hui, monter une activité thérapeutique, avec ce terme-là et ce truc-là, ça veut dire venir avec un papier, avec objectif, moyen, évaluation, tout ça. Un projet thérapeutique doit, en gros, il doit être écrit et prévisible avant même que d'exister. Donc, en gros, tu tues dans l'œuf toute possibilité de spontanéité. Donc, voilà, c'est vrai que nous, dans le champ du soin, on a un peu peur quand même de la façon dont les choses évoluent. Et d'où le fait que, ouais, peut-être que du côté de l'action culturelle, de l'action artistique, oui, et tout, on a encore une petite possibilité de défendre ça un peu joyeusement, quoi.
C'est ça. On avait reçu à Stéréotypie il y a quelques temps Stanislas et Christophe, et c'était Christophe qui nous disait que dès le début, dès qu'ils avaient commencé à faire à Stéréotypie, le chef de l'établissement leur avait conseiller tout de suite de créer une asso et de ne pas faire ça dans le milieu de la thérapie, la psychiatrie, tout ça, parce que sinon il serait bloqué, il pourrait rien faire.
Ouais.
C'est ça.
Hein. C'est
créer ces structures.
Et en même temps, ils ont quand même l'énorme chance d'être liés à une structure qui est tout à fait bienveillante.
Mmh, c'est ça.
Et qui appartient à l'énorme trouvé, qui est quand même. C'est de l'associatif, donc c'est à but non lucratif. Donc pour l'usager, c'est l'équivalent du public. Dans la réalité, c'est associatif. Ça change quand même la donne.
Ouais, ouais.
Donc il y a une certaine liberté. Et ils sont ultra bienveillants sur la question des inventions, des tout ça. Enfin, c'est aussi. Enfin, les Harris appartiennent à la même asso. Enfin, il y a plein. Enfin, Couleur Café, il y a plein de trucs. Et heureusement, parce que bon, il y a la question de la création de l'association pour pouvoir un peu être autonome sur le plan administratif. Mais encore faut-il après que la structure soit bienveillante pour accompagner les jeunes quand il faut, pour libérer les jeunes quand il faut. Une structure ou un service qui a pas envie d'aider, il aide pas, quoi.
Tout simplement.
Il y a plein de moyens de faire. Et pour le coup, Vivian, dont on parlait, oui, on a payé les frais sur le premier lieu où il travaillait. Aujourd'hui,
il a arrêté.
Ça repart. Non, enfin, il est maintenant dans le Jura et il relance de nouveaux, d'accord, projets, cette fois-ci en tant que chef de service. Ce qui est super.
Bah ouais. On va arrêter l'émission là-dessus, sauf si tu voulais dire autre chose.
Bon, écoute, non,
faut quand même qu'on annonce.
J'ai déjà beaucoup trop parlé.
Faut quand même que tu fasses, si t'as des annonces à faire, concerts, sorties, machin, c'est le moment où on résume un peu tout avant de
Le label, vous pouvez le trouver en distribution sur le site de Metamukin, vous pouvez le trouver sur le Bandcamp Verpituit Label .bandcamp.com avec les différents disques dessus et achetables en ligne. Vous pourrez écouter dessus justement le dernier Guillonnet qui sort donc tout fraîchement solo d'orgue dans le monastère d'Aranzazu. Le mercredi 7 novembre, le cabaret cardiaque avec Porest, Elg et Damien Schutz et Cost et Hicham Chadli en DJ set, donc le boss du label,
ouais,
Nashas Phone.
Ouais, ouais.
Qui quand même ont fait la carte blanche de cette soirée, quoi. Exactement. Et Roger Super 8 qui va nous projeter des films trouvés étranges et parfois tout à fait malveillants, faits par des inconnus. Super 8. Voilà.
Ça c'est où?
Ça c'est à la Malterie, donc à Lille.
Voilà.
Et le 8 décembre, nouvelle soirée Label Brut, toujours à la Malterie, cette fois-ci avec les Schulers et Harry Méry. Et DJ Dirty Berlin, qui est un super DJ hip-hop à Lille.
Super.
Voilà.
Bah, on va clore l'antenne là-dessus, sauf si Patricia, t'as des annonces à faire?
Non.
Bah, on va finir là-dessus. La playlist va s'enclencher parce qu'on ne peut plus lancer de morceaux apparemment. On est désolé, c'est les aléas du direct, mais c'est brut, voilà, tout simplement. Merci à tous et à la semaine prochaine, c'était Les Oreilles Libres. Merci Patricia qui a fait le son. Merci, merci Olivier Brisson et à la semaine prochaine.
Bah, merci à vous.